Voilà, nous prenons la parole dans Marc, l'évangile de Marc au chapitre 2. Et puis nous allons recommencer la prière et l'adoration. Marc 2, la Bible dit, à partir du verset 1er, « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique, porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés ? Si ce n'est Dieu seul. » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Alors, je veux parler de l'intercession. L'intercession, c'est prier pour les autres, c'est être un intermédiaire entre Dieu, qui est la source de toute grâce excellente et de tout don parfait, et une situation difficile. C'est ça l'intercession. Nous sommes dans une époque où il y a de l'instantané dans tout ce qu'on fait, le café, les plats cuisinés déjà à l'avance, et puis on chauffe rapidement, et il y a une sorte de rapidité, et cette rapidité-là s'introduit aussi dans l'église de Dieu, et il y a aussi de l'instantané. Les gens, quand ils ont des problèmes, ils veulent que, bon, on prie une fois pour toutes, on impose les mains, qu'ils soient guéris définitivement. C'est une bonne chose, on le trouve aussi dans la Bible, mais dans la Bible aussi, on parle des années aussi. Il y a des gens qui souffrent pendant longtemps. Il y a Paul qui a souffert pendant longtemps. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Il y a le paralytique qui attendait sa guérison. Il attendait 38 ans. Donc, il faut dire que certains avant lui étaient guéris quand même. Donc, c'est Dieu qui guérissait. Et la Bible nous montre aussi quand même qu'il y a des durées. Donc, il y a de l'instantané, mais il y a aussi des durées. Et donc, nous, on risque de rester que dans un coin de la Bible et chercher de l'instantané. Et finalement, chercher des pouvoirs exceptionnels qu'on pourrait posséder pour régler les problèmes. C'est ainsi que aujourd'hui beaucoup de chrétiens attendent des réponses nettes, précises sur leurs problèmes. Ils supportent plus de temps d'attente, des temps de flou parfois, et le temps de marche avec le Seigneur. Or, si parfois le Seigneur traîne dans sa réponse et il veut lui avoir un temps avec nous de marche avec lui, et on ne comprend pas ces choses. Donc je voulais parler de l'intercession, un aspect de l'intercession, parce que je sais que au milieu de nous il y a beaucoup d'intercesseurs et nous devons prier les uns pour les autres, mais parfois on s'épuise si on ne prend pas tout l'aspect des choses. Et je veux aussi montrer dans cet aspect de l'intercession que l'intercession c'est quelque chose d'extraordinaire, de puissant. C'est dynamique, même si parfois, même si souvent plutôt, on l'a fait dans des endroits fermés, figés, mais l'intercession en elle-même, elle est dynamique. Donc je prends cet exemple-là de ces gens-là, qui avaient sûrement, c'était un de leurs amis ou un de leurs parents qui était malade et qui ne pouvait pas marcher. Et c'est ça déjà l'intercession, le premier élément à adopter dans l'intercession, c'est comprendre que la personne pour laquelle on intercède ne peut pas se sauver par elle-même. Souvent, on a intercédé pour des gens tout en étant en colère pour ces gens-là. Et ça n'a pas permis l'exaucement de Dieu. Parce que tu ne peux pas intercéder pour quelqu'un en même temps que tu es en colère pour lui. Et généralement, ces intercessions-là, où on prie pour quelqu'un, en même temps on est fâché contre la personne, ça ne marche pas. Parce que notre colère annule notre intercession. Et en général, ces intercessions-là, on les fait parce qu'on est pressé que Dieu sauve ces gens-là pour qu'ils nous laissent tranquilles. Donc, ce n'est pas vraiment dans une logique liée à Dieu. Et là, on va voir que ce que Dieu veut, c'est qu'on épouse sa logique à lui. De tout temps, vous savez, tous les versets de la Bible le disent, cherchez d'abord le royaume des cieux, et le reste vous aurez. 1 Jean 5, 14, 15, si vous demandez quelque chose, selon ma volonté, je vous écoute. Donc, notre prière, la prière que le Seigneur nous a laissée, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Donc, quand on lit toute la Bible, on se rend compte que Dieu met d'abord en avant sa propre volonté. Donc, il ne fera pas la volonté d'un homme. Donc, il fait toujours sa propre volonté à lui. Et la vraie prière, c'est d'abord d'entrer dans la logique de Dieu, dans sa volonté. C'est ça la vraie prière. Sinon, nous prions en vain. C'est très important de comprendre ça. La vraie prière, c'est de voir déjà comment Dieu voit la situation. Et nous, si on amène quelqu'un auprès de Dieu, en l'accusant en même temps, on l'amène auprès de Dieu pour que Dieu le sauve, et nous-mêmes, par notre colère, par notre haine, ou bien par un sentiment froid, ben, on accuse en même temps cette personne-là, ça ne peut pas marcher l'intercession. Donc la vraie intercession suppose que la personne qu'on amène vers le Seigneur ne peut pas se sauver par elle-même. Donc on ne peut pas en même temps supposer que c'est un bon chrétien, c'est un chrétien qui connaît très bien la vérité et l'amener auprès de Dieu avec colère parce qu'on se dit mais c'est un bon chrétien, il aurait dû se comporter comme ça. Non. Donc au moment où on apporte quelqu'un en intercession auprès de Dieu, nous devons considérer que cette personne-là par elle-même ne peut pas se sauver. Donc que notre intercession fait partie de son secours essentiel. Donc quand on prie pour cette personne, on doit avoir d'abord cette première attitude. Donc cette personne-là ne pouvait pas marcher. Donc on l'a portée par quatre amis ou quatre parents jusque là où Jésus était. Mais arrivé là où Jésus était, donc ils ont dû marcher. Donc, ils n'ont pas pris une ambulance comme à notre époque. Tu n'as qu'à faire c'est le 17 ou le 18. Tu fais le 17, le SAMU vient et toi, il y a même des brancards, donc ils viennent, ils mettent le malade. Toi, tu observes, tu suis seulement en marchant. Non. Donc, eux, c'est eux-mêmes qui ont porté le malade. Ils ont dû souffrir. Vous savez, quand quelqu'un n'a plus ses forces, ses membres ne répondent plus, il devient beaucoup plus lourd, parce que ses membres n'interviennent plus pour soulager le poids. Et donc, ils ont dû porter cet homme-là jusqu'à arriver devant Jésus. Arrivé devant Jésus, la maison était bondée, elle était pleine, ils ne pouvaient pas entrer. Donc, c'était bloqué. Mais est-ce qu'ils se sont arrêtés là? Non. Donc, deuxième observation, lorsque tu amènes une situation devant le Seigneur, même si le Seigneur paraît inaccessible, même si le Seigneur paraît ne pas répondre, tu ne dois pas t'arrêter là. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont montés avec cet homme-là. Ils sont montés, mais sûrement quand ils sont arrivés là-haut, ils ont dit, mais oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? On est près de Jésus peut-être, on peut entendre ce qu'il dit à travers le toit, mais après on fait quoi? On va pas quand même casser le toit d'autrui. Ce n'est pas écrit, on n'a pas dit que c'était leur maison. Hein. Au contraire, ce n'était pas leur maison. Parce que si c'était leur maison, ils seraient là déjà. Donc, les premiers participants à cette scène-là. Non, ce n'était pas leur maison. Ils sont montés jusqu'au toit. Je crois qu'ils se sont dit, mais là, maintenant, on fait quoi? Mais dans leur cœur, il fallait quoi? Il fallait que leur ami soit guéri. Il fallait que leurs parents soient guéris. Peu importe cet obstacle. Alors, faut-il casser le toit d'autrui puisque ton ami veut être guéri? Mais c'est là que je vous ai dit, la vraie intercession regarde toujours la logique de Dieu. Comment, qu'est-ce que Dieu pense entre un toit, le toit d'une maison et la guérison d'une personne? Qu'est-ce qui est important pour Dieu? Voilà. Qu'est-ce qui est important? Donc c'est là que on doit entrer dans la logique de Dieu. Se dire, mais tiens, quelles sont les valeurs à mettre en avant ici? Le toit de cette maison ou bien le salut et la guérison de cette personne? C'est ça la réflexion. Et beaucoup de chrétiens, à un moment, ils s'arrêtent. Parce que le diable leur dit, mais attends, ça fait un moment que tu pries. Il y a des gens aussi, ils doivent prendre leurs propres décisions quand même. Donc comme pour te dire, arrête-toi, il doit prendre sa propre décision, sinon laisse-le mourir comme ça. Et donc ce n'est pas la voix de Dieu qui te passe, c'est la voix du diable qui veut profiter des obstacles que tu rencontres, qui veut profiter du fait que tu n'as pas encore vu ce pourquoi tu pries, et il veut que tu arrêtes de prier en te donnant plusieurs obstacles. Et toi aussi, quand tu vas calculer, tu vas dire, mais oui, c'est vrai. Là, je me milite tout le temps en demandant la prière. Oui, c'est vrai, ça fait un moment que je prie. Et tu oublies une chose, tes moments de prière, ils ne prennent même pas déjà toute la journée. Ces moments-là, comparés au salut de cette personne-là, il n'y a même pas de comparaison. On ne peut même pas comparer ça. Le salut de la personne est infiniment plus important que tes moments en toi de sacrifice de prière. Tu peux peut-être jeûner 2 jours, mais qu'est-ce que c'est 2 jours pour 6 mois ou pour 4 mois? Donc, finalement, l'ennemi va te montrer que tes sacrifices, ça ne vaut pas la peine que tu te sacrifies en intercession parce qu'il n'y a pas de résultat. Les obstacles sont toujours là. Et quand toi, tu vas mal comparer, tu ne vas pas voir les choses comme Dieu voit, tu vas t'arrêter. Tu vas dire, mais effectivement, ça fait un moment qu'on est sur cette piste-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arrêter. Je me souviens d'un pasteur qui avait mis dans l'église qui dirigeait un service pour donner la nourriture aux clochards. Et dans l'idée, bien sûr, d'évangéliser en même temps. Et quand il faisait ce travail-là, il prêchait en même temps l'évangile à ces clochards. Mais ça a fait plusieurs mois, je crois même des années, aucun clochard ne s'est convertissé. Et puis le pasteur s'est dit, bon, puisque aucun clochard ne se convertit, autant arrêter ce service-là. Et Dieu lui a parlé. Il lui a dit, si vous arrêtez ce service-là, vous allez arrêter une partie de moi en vous. La partie qui fait que j'aime tous les hommes, sans intérêt, vous allez arrêter cette partie de moi en vous. C'est ça la réalité. La prière suppose chercher à être comme Dieu. La prière, ce n'est pas venir... sinon, c'est de la magie. Hein. Sinon, c'est de la magie. Quand tu viens, tu penses qu'en récitant telle phrase, tu auras telle chose, sans même réfléchir qui est Dieu, sans même réfléchir à la pensée de Dieu. Donc, tu n'as rien à voir avec Dieu. Tu viens réciter quelques phrases. Ce n'est plus de la vraie prière. La vraie prière est un contact avec Dieu. Et un contact avec sa logique. Comment lui, il voit les choses? Et ce pasteur-là, à cause du manque de résultats, il allait arrêter. Mais non, si Dieu avait permis que vous fassiez ce service, c'était pour bien entrer dans sa nature. C'est très important. Donc, comme beaucoup viennent dans les salles de prière, mais ils n'entrent pas en contact avec Dieu. Ils prient. Ils font ce qu'ils doivent faire, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est qu'on entre vraiment en contact avec lui. Il y a quelqu'un qui peut venir dans une salle de prière, il reste là, calme du début à la fin, et c'est lui qui est entré en contact avec Dieu. parce qu'il n'est pas resté sans rien faire. Dans son calme, il se repentait. Dans son calme, il prenait des décisions pour sa vie. Il est rentré, il a compris quel était son tort à lui. Mais il y en a qui viennent, qui deviennent des professionnels de salles de prière, mais quand ils sortent, ils ont l'impression d'avoir bien travaillé. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Donc Dieu ne cherche pas à ce qu'on dise, on a bien travaillé. Il veut qu'on entre en communion avec lui réellement. Chaque jour qu'on prie, chaque moment qu'on prie. Et quand on entre véritablement en communion avec Dieu, on saisit ses objectifs à lui. On peut maintenant vraiment bien prier. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin qu'un homme normal qui vient faire comme un travail. Et ces gens-là, en ce moment-là, ils ont réfléchi. Qu'est-ce qui est important? Ce toi ou cet homme? Ils ont compris tout de suite que c'était l'homme qui était important. Ils ont cassé le toi. Un autre obstacle, comment faire? Ils ont tout fait pour trouver des fils et descendre le paralytique. Donc je crois que ils se sont même pas entraînés pour ça. Donc ils ont tout fait au même moment. Donc ils ont mis les fils, ils ont descendu d'une manière. Vous savez, essayer ça, ce n'est pas facile. Hein, ce n'est pas facile après de faire descendre un homme qui pèse comme ça, en tenant que chacun lâche comme il faut. Ce n'est pas facile. Mais ils l'ont fait. L'homme est arrivé devant Jésus. C'est ça l'intercession. Priez jusqu'à ce que le dossier arrive devant le Seigneur. Et le Seigneur, quand le dossier arrive devant lui, nous on a fini notre travail. Jésus s'occupe du dossier maintenant. Et mon souci aujourd'hui, c'est de voir que, c'est de nous faire voir à nous tous le salut de cette personne-là. La source de ce salut a été ses quatre parents, ses quatre amis. Ils ont tout fait. Et on peut les comparer à des intercesseurs. Ils ont tout fait pour que le dossier de leur frère, de leur ami, arrive devant le Seigneur. Je veux bien qu'on retienne la parole. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. C'est ça les vrais intercesseurs. Ils ont tout fait pour que finalement les dossiers arrivent devant Dieu. Et j'ai l'habitude de rappeler que si nous nous réunissons autant de jours, c'est vrai, c'est pour apprendre des choses, c'est pour écouter la parole, c'est pour adorer aussi. Mais il y a un autre objectif, c'est pour apporter la Normandie devant le Seigneur, pour dire, Seigneur, nous venons t'adorer parce que tu es Dieu. Et puisque tu es Dieu, nous croyons que tu peux sauver cette région. Puisque tu es Dieu, nous croyons que tu peux sauver nos familles. Nous faisons des rencontres presque tous les jours pour que le feu soit toujours allumé. Et ce feu-là permettra toujours une inspiration nouvelle, une parole nouvelle à dire à Dieu pour la situation de notre région et aussi pour la situation de nos familles. C'est ça le but. Le but, ce n'est pas faire son travail. Le but, c'est vraiment bénéficier de Dieu, apporter le dossier devant Dieu, sans se lasser. Tout faire. Ils ont tout fait pour apporter le dossier devant Dieu. Et aujourd'hui, nous avons besoin de tels intercesseurs qui vont tout faire pour amener la chose jusqu'à son accomplissement. C'est ça le vrai intercesseur. Il ne s'arrête pas. Et nous connaissons tous ces passages dans Ésaïe 62, 6 à 7, où le Seigneur dit, sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des gardes qui crient jour et nuit devant toi. Ils ne s'arrêteront pas jusqu'à ce que tu rétablisses Jérusalem dans sa gloire. Ces gardes-là ne sont pas des gardes humains, enfin, ce ne sont pas des gardes avec des lances et des javelots, c'est des gardes spirituels. C'est pas parce que on va pas dire des gardes avec des lances qui vont crier jour et nuit. Non, les gardes avec des lances se battent, ils crient pas. Et là, quand on dit ils crient, c'est des gens qui prient jusqu'à ce que Jérusalem soit rétablie dans sa gloire. C'est ça les vrais intercesseurs. Ésaïe 62, 6 à 7. Donc ils vont prier jusqu'à ce que la situation qu'ils veulent voir changer change. Ils s'arrêtent pas. Chaque jour, ils amènent le dossier devant Dieu. Et si ça n'arrive pas, ils usent de toutes sortes de moyens, mais il faut que le dossier arrive auprès du Seigneur. Il faut que ça marche. C'est très important. En tant que pasteur, j'ai des attentes, j'ai des espérances. Parfois, elles ne sont pas accomplies. Mais je dis toujours, même si ce qu'on a fait, par exemple, on a fait des formations, on a prêché, mais je ne suis pas toujours satisfait. Il n'y a pas suffisamment de disciples, des gens qui ressemblent au Seigneur. Il y a des gens qui apprennent, les cerveaux sont remplis, mais ils ne veulent pas céder et avoir le caractère du Seigneur. Et je dis aux bien-aimés, malgré ça, si en prêchant, en formant, on n'a pas réussi, la Bible dit « Priez le maître de la moisson, de susciter des ouvriers ». Ben, malgré ça, nous avons toujours la prière, l'intercession pour prier, pour dire « Seigneur, nous avons besoin des disciples. Nous n'avons pas besoin des religieux qui viennent à l'église pour satisfaire à un rituel. Nous avons besoin des gens qui décident de mettre leur vie en ordre par rapport à toi et de marcher comme toi, Jésus, tu as marché à 100%. » Donc même si la formation, même si notre propre exemple, même si les enseignements n'ont pas réussi, il y a encore la prière. Nous allons intercéder jusqu'à ce que on voit ce que nous voulons voir. C'est ça, bien-aimés, les intercesseurs que Dieu demande. Et Dieu veut que nous soyons ces intercesseurs-là. Qui, d'abord, comprennent que les situations que nous apportons à Dieu ont besoin de nous. On peut être toujours là à dire, ben, la Normandie, mais pff, moi je suis qu'une goutte d'eau. Je suis qu'un grain de sable. Qu'est-ce que moi je peux faire pour changer la Normandie? Rien. Et là, tu es mis de côté dans la logique de Dieu. Tu es inutile. Donc on peut toujours être là à voir que le problème, ça peut se résoudre sans nous. Mais est-ce que c'est ça la vérité? Donc il faut réfléchir. Cet homme-là avait besoin de ses quatre amis. Le problème, en ce moment-là, ne pouvait pas se résoudre sans eux. Donc ça, c'est la première chose. Comprendre ça. Que le problème que nous apportons à Dieu a besoin de nous-mêmes. C'est très important. Cet homme-là avait besoin de quatre. Et deuxièmement, comprendre que lorsque nous apportons le problème devant Dieu, nous devons entrer dans la logique de Dieu. Comment Dieu voit les choses? C'est très important. Comment voit-il les choses? Un petit exemple. Est-ce que Dieu veut sauver la Normandie? Ben oui. Mais puisque Dieu veut, on peut aller faire passer toutes sortes d'obstacles pour y arriver. Il faut entrer dans la logique de Dieu. La prière, ça sert à ça. À comprendre qui est Dieu. À entrer dans sa logique. Parce que tu vas prier. À un moment, le diable va prophétiser dans ton cœur pour dire, ben, Dieu est en colère. Donc, sa colère ne va plus changer. Donc là, tu n'as pas prié comme il faut parce que la Bible dit dans 1 Timothée 2, verset 4, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Donc, tu ne peux pas te lasser si tu connais ce passage-là. Mais comment connaître ce passage-là? C'est en aimant Dieu, en priant. C'est en considérant que Dieu vraiment veut sauver les autres. C'est très important. C'est en considérant que Dieu veut pardonner. Si tu considères que Dieu veut pardonner, là tu peux prier pour n'importe qui. Mais si tu négliges le côté pardon de Dieu, tu n'as pas compris Dieu, tu ne peux pas être un bon intercesseur. Dieu veut qu'on soit des bons intercesseurs, que nous entrions dans sa logique à lui. Et troisièmement, il ne faut pas s'arrêter à aux deux étapes que j'ai citées. Il faut tout faire, tout faire. Moïse a tout fait quoi. Dieu a dit à Moïse, je vais tuer le peuple d'Israël. Je vais les détruire. Et c'est avec toi que je commence une nouvelle nation qui entrera en terre promise. Moïse a dit, pardon Seigneur, ne détruis pas. C'est ton peuple. Moïse a joué son rôle d'intermédiaire, d'intercesseur. Il a dit, mais c'est toi qui les as sortis d'Égypte. Il a rappelé à Dieu sa propre nature. Il a dit, mais si tu les tues encore, les gens vont se moquer de toi. Or toi, tu as une nature dont personne ne peut se moquer. Il a rappelé à Dieu ce qu'il était. Il est entré dans la logique de Dieu. Il a dit, mais c'est toi le Dieu lent à la colère et riche en bonté. Comment tu agirais ainsi? Il a rappelé à Dieu ce qu'il était. Mais pour cela, il fallait qu'il ait ce cœur-là d'intercesseur. C'est ça le vrai intercesseur. Dans sa prière, il entre dans la volonté de Dieu. Il entre dans la logique de Dieu. Il ne vient pas prier pour sortir des paroles comme un perroquet. Il vient pour que lui et Dieu travaille ensemble. Et c'est ce qui est écrit dans Ésaïe 43, 26, qu'on va lire. Ésaïe 43, 26. La Bible dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. C'est Dieu qui dit à Ésaïe, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même. Donc, il y a une activité d'ensemble qu'Ésaïe doit faire avec Dieu dans l'intercession. Plaidons ensemble. C'est-à-dire, comprendre qui je suis, qu'est-ce que j'attends, toi discute. Donc, c'est ça l'intercession. L'intercession n'est pas là pour éliminer les mauvais. L'intercession n'est pas là pour, consacrer des champions. L'intercession est là pour amener à Dieu des situations difficiles, des situations compliquées, afin que Dieu résolve. Et pour cela, nous avons besoin d'être dans la logique de Dieu. Et quand on est dans la logique de Dieu, on va aller jusqu'au bout. Il faut tout faire. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut travailler jusqu'à ce que nous puissions gagner la cause. C'est ça l'intercession. Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des gardes qui vont crier, qui ne vont pas s'arrêter, qui vont sans cesse crier jusqu'à ce que Jérusalem revienne dans sa gloire. C'est ce que Dieu veut. Et nos amis, les quatre, nous le prouvent. Ils ont tout fait. Moïse a tout fait. C'est vraiment, quand on lit son histoire, on dit, ça c'est l'intercesseur. Et à un moment, Dieu a dit, d'accord, je ne veux plus les tuer. Je ne veux plus les tuer. Allez à la terre promise. Je vais vous ouvrir les portes de la terre promise. Je vais vous donner les territoires que je vous ai promis. Mais moi, je ne serai pas avec vous. Allez, recevez ce que vous voulez. Bien-aimé, Moïse a dit, non, Seigneur. Je préfère ne pas avoir tout ce que tu nous proposes là, mais t'avoir toi. Si tu ne veux pas aller avec nous, ce n'est pas la peine de nous faire aller. Mais combien d'intercesseurs aujourd'hui, ils prient pour le Seigneur, le frère manque de voiture. Et Dieu, un jour, il te montre le caractère du frère et il veut te montrer par là que s'il avait la voiture maintenant, ça ne sera pas bon pour lui. Mais toi, comme tu es pressé de gagner dans ton intercession, tu ne cherches pas la communion avec Dieu dans ton intercession. Ton problème à toi, tu es là pour mettre une pièce dans une machine à boisson et que la boisson sorte. C'est ça ton problème. Tu viens avec ta prière qui est comme une pièce et tu attends que la boisson sorte. Tu ne cherches pas avec la communion avec celui qui donne. Qui pouvait te dire, le frère n'est pas prêt pour la voiture en ce moment. Qui pouvait te dire, voilà quelque chose qui bloque. Mais, et finalement, tu peux toujours déranger Dieu. Et Dieu donne. Mais après, c'est toi qui vas commencer à te plaindre. Mais oui, depuis qu'on lui a donné cette voiture, depuis que, mais qui avait prié? C'était toujours toi. Donc, à un moment, tu n'avais pas écouté Dieu pour savoir que ta prière, tu devais la transformer, la changer. C'est ça le problème. Donc Dieu, à un certain moment, il a dit à des serviteurs de Dieu, ne prie pas pour un tel. Il a dit à Samuel, ne prie plus pour tel. C'est fini, ce cas-là est réglé. Voilà. Donc il y a des moments où Dieu parle pour nous expliquer comment prier réellement. Donc on vient à lui avec notre sujet. Dans la prière, lui-même, il transforme le sujet. C'est ça l'intercession. Tant qu'on n'est pas en communion avec Dieu, finalement, on finira par devenir donc des gens avec des pièces qu'on met dans les machines pour que les boissons sortent. C'est tout, on n'attend pas autre chose. Le bouton qu'on a appuyé, c'est ce qu'on attend. Mais la vraie intercession, c'est porter le fardeau d'une personne, d'une situation, mais dans la logique de Dieu, pas dans la logique personnelle de réussir sa prière d'intercession. Et quand tu vois la voiture, tu dis, ah, on a beaucoup prié pour ça, Dieu a donné. Donc, quelque part, il y a une réussite personnelle qui est mise en avant. Non. Mais quand on est dans l'intimité avec Dieu, on dit, le Seigneur a agi. Il est fidèle, il est bon, parce qu'on a été en intimité avec lui. Et l'intercession, bien aimé, c'est ça notre puissance. C'est ça notre victoire. L'intercession nous humilie. Ça nous rend compte que c'est Dieu qui agit. Voilà ces quatre gaillards qui montent sur le toit comme des enfants. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils s'humilient. Il faut qu'ils descendent cet homme-là. Et si ça ne marchait pas? Voilà, on peut toujours se poser la question, mais si ça ne marchait pas? C'est ça l'intercession. L'intercession, derrière l'intercession, il y a toujours une voix de l'ennemi qui dit, et si ça ne marchait pas? Et si ça ne marchait pas? Mais nous, on n'a pas écouté cette voix-là qui dit, et si ça ne marchait pas? Nous, on doit contempler la grandeur de Dieu. Et c'est pourquoi dans l'intercession, il y aura forcément l'adoration. Puisque l'adoration nous rappellera sans cesse qui est Dieu, quelle est sa nature, et qu'on revienne sur cette nature-là pour réclamer des choses à Dieu. C'est très important, puisque la petite voix dit toujours, mais si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et comme cet homme-là était descendu, Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Est-ce que lui, eux, ils les avaient amenés pour le péché, pour ses péchés? Non, ils l'avaient amené pour un problème de guérison physique. Et Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Ils sont restés là. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Et Jésus démontre que finalement, le problème du péché est beaucoup plus grave que le problème physique. Toi, tu étais venu pour un problème physique. Dieu te dit, mais le vrai problème, ce n'est pas le problème physique. C'est le problème de la communion, c'est le problème du péché. C'est le problème du fruit de l'esprit. Ça, c'est le problème le plus important pour Dieu. Bien-aimé, que personne ne vous trompe. Ce n'est ni la foule, ni les guérisons, ni les miracles, ni les maisons, ni l'argent qu'aurait un serviteur ou qui serait autour d'un serviteur de Dieu qui soit important. Ce n'est pas du tout ça. C'est le fruit de l'esprit. Et Dieu cherchera toujours le fruit de l'esprit. La bonté, l'amour, la patience, la bienveillance, la paix. C'est ça qui compte pour Dieu. Tout le reste, c'est comme du sucre glace. La réalité, c'est le fruit de l'esprit. C'est ça la réalité. La paix, la joie. Même, vous savez, il y a des choses qu'on a demandées à Dieu, qu'on a mal demandées. Seigneur, nous voulons ta présence. Et pour beaucoup, quand ils disent nous voulons ta présence, ils veulent sentir une sorte de chaleur, une sorte de force. Vous savez que le diable peut donner ces choses-là aussi. Tu sens comme une paix. Bien-aimé, je suis en train de lire un livre sur quelqu'un qui était dans le New Age. Toutes ces choses-là, je veux ta présence, je veux ta présence. Mais ce n'est pas le livre qui dit ce que je dis. Mais moi-même, je me suis rendu compte de cela. Qu'il y a des gens qui disent, on veut ta présence, ils veulent sentir quelque chose. Non, bien-aimé, c'est des mauvaises prières. Ce que nous devons rechercher, c'est la nature du Seigneur en nous. Que sa nature s'exprime, se manifeste. Et dans sa nature, il y a forcément la paix, la joie, il y a tout le reste. Mais à part ça, dans sa nature, il y a la vérité. Il y a la vérité. Vous savez, les gens qui prennent la drogue, ils se sentent bien quand ils prennent ça. Ils se sentent très bien, mais sauf qu'il y a la fausseté dedans. Après cette sensation-là, c'est la mort qui vient. Mais avec Dieu, tu te sens bien, mais tu restes bien parce que tu es dans la vérité. Seule la vérité dure. Seule la vérité a de grands fondements. Et donc c'est pourquoi, quand nous venons à Dieu sincèrement, il finit par nous dire, mais voilà, tu viens pour telle chose, mais ce n'est pas ça qui fait l'important. Mais voilà ce qui est important. Mais tout cela, on obtient cela quand nous entrons dans sa logique. C'est très important d'aller jusqu'au bout dans la logique de Dieu. Donc Dieu veut que nous puissions intercéder, prier. Et vous savez, il y a un verset qui dit, la prière de l'homme droit est agréable à Dieu. Dans Proverbe 15, la prière de l'homme droit est agréable à Dieu. Ne venons pas seulement prier parce que il y a des sujets pour lesquels on doit prier, mais parce que aussi ça plaît à Dieu. C'est la seule nourriture que nous on peut lui donner. On peut rien lui donner. On peut lui donner cependant la prière, l'adoration. Ce sont les nourritures que lui, il peut prendre de nous. Donc autrement, on peut rien faire d'autre. Et donc, venons dans cette logique-là de prier parce que c'est aussi agréable à Dieu. Et ces gens-là qui déposaient le paralytique savaient aussi que pour la gloire de Dieu, Jésus allait guérir cet homme-là. Il connaissait Dieu. Il savait que Dieu est un Dieu glorieux qui aime qu'on reconnaisse ses grands exploits. Il aime cela. Il aime cela. Il faut le savoir que Dieu aime faire des exploits. Dieu aime faire des miracles. Il aime ça. Ce n'est pas parce qu'il n'en fait plus à notre époque comme à une certaine époque qu'il n'aime pas ça ou bien qu'il s'est refroidi. Non, c'est nous qui sommes devenus de mauvais instruments. Et ces miracles, tant qu'on n'est pas changé totalement, ben, risquent de nous faire jouer de mauvais tours. C'est un point, c'est tout. Mais Dieu aime ça. Il aime faire des exploits. Il faut venir à Dieu dans cette logique-là. Pas comme devant quelqu'un qui, on ne sait pas est-ce qu'il va faire ou pas. Non, on sait qu'il aime ça et on peut venir avec confiance. On sait qu'il est notre solution, la seule. Donc on peut tout faire, on doit tout faire parce que c'est la seule solution. Avant-hier, je parlais avec un bien-aimé. Ça fait un moment qu'il est attaqué par des esprits. Et on a prié, ça ne finit toujours pas. Et il se plaignait. Moi, j'ai dit, tu sais, frère, et ça, je n'avais pas prévu de lui dire. Je lui dis, mais tu sais, frère, je préfère mourir avec Dieu, mais que donner un couteau au diable pour me frapper. Donc, je préfère encore, malgré nos échecs dans la prière, garder ma foi en Dieu, plutôt que contester Dieu, quoi. Je refuse. Je sais que, en contestant, je donne le couteau à l'autre. Vas-y. Massacre-moi. Je sais que en murmurant, en me plaignant, je rends l'autre encore plus fort. Je sais qu'en me mettant en colère, je le sais. Puisque je le sais, je ne peux pas tomber dans ce piège. Et je comprendrais quelqu'un qui serait dans l'ignorance, qui tombe dans ce piège, qui commence à murmurer contre Dieu, à se plaindre, à polémiquer. Mais moi, je sais que murmurer contre Dieu, murmurer contre un frère, avoir de la colère, de la jalousie, toutes ces choses m'empêchent de voir la gloire de Dieu. Alors, je préfère rester en paix avec Dieu, même dans l'échec apparent, plutôt que donner la force à l'autre à travers mes contestations, à travers mes murmures, bien-aimés. C'est ça la réalité. Souviens-toi que tous tes murmures que tu peux faire contre Dieu, parce que tu n'as pas encore vu ce que il te promet dans la parole. Mais souviens-toi que c'est un couteau que tu donnes au diable. Après, tu viendras encore te plaindre. Après, c'est un cercle vicieux. Au lieu de ne pas prier, tu pries. Et quand tu pries, tu murmures contre Dieu. Et après, ta situation devient plus grave. Tu reviens encore prier, mais choisis une chose. Ou tu es avec Dieu. Et c'est ça la vraie prière. Tu reconnais qu'il est Dieu. C'est pourquoi il dit dans Hébreux 11:6, or la foi, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, où tu es avec Dieu, tu crois qu'il va faire, malgré toutes les déceptions, malgré la durée, tu dis, Seigneur, je me maintiens. Je ne progresse plus, mais je me maintiens quand même dans la foi. Je n'ai plus de belles prières à sortir, mais je reste quand même avec toi. C'est ça. Mais dès que tu commences à murmurer, mais est-ce que ce qu'on nous dit aussi, c'est vrai? Est-ce que dès que tu commences là, à entrer dans ce chemin-là, tu te tues toi-même. Tu donnes le couteau à l'autre. Et je dis, mon frère, je préfère rester dans la honte apparente de l'échec de mes prières plutôt que d'entrer dans un petit murmure contre Dieu. Je refuse ça. Je sais que le diable est un mauvais, c'est un destructeur. Et je ne lui donnerai jamais l'occasion de m'attaquer parce que j'ai murmuré contre Dieu. Je refuse cela. Maintenons-nous dans la foi en Dieu. Et ces bien-aimés-là sont allés jusqu'au bout. Malgré les obstacles, ils ont déposé cet homme-là. Moïse, pareil, est allé jusqu'au bout. Malgré les obstacles, malgré les rébellions, malgré tout ce qu'on disait, il était toujours là en amenant le peuple à la terre promise. Malgré tous les obstacles. Bien aimé, Moïse n'a pas amené avec plusieurs personnes. Donc, il portait sur lui le fardeau. Donc, quand tu intercèdes, ce n'est pas le nombre d'intercesseurs qui compte, c'est toi qui comptes. Je ne parle pas de ça dans une logique d'individualisme. Je parle dans une logique de conscience. C'est toi qui connais ton cœur. Tu connais le souci que tu as dans ton cœur. Ne cherche pas à ce que les soucis des autres soient comme toi pour que tu pries avec efficacité. Prie par rapport à ton souci à toi. Prie comme Moïse. C'était son problème à lui que d'amener le peuple à la terre promise. Il a tout fait. Il a tout fait. Et c'est ce que Dieu nous exhorte à faire. Qu'on fasse tout. Qu'on ne décourage pas. Peu importe le désert, peu importe le fait qu'on n'a pas récolté ce qu'on a vraiment semé, Dieu nous dit, ce que vous avez semé, ce n'est pas détruit. Du moment que c'est semé, ça va germer un jour ou l'autre. Puisque c'est moi. La Bible dit, c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Si c'est Dieu qui donne la semence au semeur, qui peut détruire la semence de Dieu? Personne. Ce qu'on a semé, ça ne paraît toujours pas encore, mais il nous faut continuer la pluie d'intercession, la pluie de la prière, mais dans la logique que nous venons de citer, et réellement, le Seigneur va agir. Le Seigneur a besoin d'intercesseurs. C'est ce qui est écrit dans Ézéchiel 22:30. Dieu dit, je cherche un homme qui va se mettre à la brèche, qui va élever des prières. Il cherche de telles personnes qui ne vont pas trop réfléchir, mais qui vont se dire, il faut que la situation soit sauvée. Or, Dieu veut aussi que la situation soit sauvée. Qu'est-ce qui manque? Que moi je prie? Eh bien, je vais prier. Et en plus, dans cette prière, j'entre dans sa logique. Je le comprends mieux. Dans cette prière, je deviens un champion. Parce que, bien aimé, quand tu pries, tu es plus roi que le roi même du pays. Parce que qui peut venir embêter tes pensées? Personne. Qui peut? Quel homme peut entrer dans ton cerveau pour commencer à te donner des ordres? Personne. La prière, c'est l'endroit où nous sommes le plus forts. Parce que on peut prêcher, je peux commencer à prêcher ici, et quelqu'un vient, il casse les fils, il coupe l'électricité. Il peut. Mais quand je prie, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Quand la Chine refuser que les Bibles entrent en Chine, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, mais à l'époque c'était encore plus dur. Aujourd'hui ils permettent quand même la fabrication des Bibles sur place, à l'intérieur, mais ils veulent pas que ça vienne de l'extérieur. Mais le frère André a dit, mais les murs de la Chine peuvent empêcher que les humains passent, mais ils peuvent pas empêcher que la prière passe. Nous allons prier, et la prière passera, et les murs vont s'ouvrir. C'est ça. Et ça s'est ouvert. Bien-aimé, et ça s'est ouvert. Aujourd'hui, le plus grand réveil, ça se trouve en Chine, que ce grand réveil. Parce que des gens ont prié, des gens ont cru en la bonté de Dieu. Ils ont cru en son amour qui pouvait changer les pays. Il y a, bien-aimé, dans certains pays, je crois que c'est dans les Indes de l'Amérique du Sud, chez les Indiens d'Amérique du Sud, il y a un homme, son frère est parti annoncer l'évangile à ces Indiens-là. Il est parti, on l'a mangé par les Indiens. Et son frère, quelques jours après, il va encore avec une autre personne. Et quand ils vont là-bas, ils transforment tous les Indiens en serviteurs de Dieu. C'est ça l'intercession. Tout faire. Si Dieu est tout puissant, c'est qu'il y a une porte, même si les murailles sont là. C'est écrit dans Ésaïe 45, on va lire pour clôturer. Ésaïe 45, au verset 3. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, et je romprai les portes de bronze, et je briserai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. Je briserai les portes de bronze. Même quand les portes sont fermées, on venait de manger son propre frère. Mais lui, quelques semaines après, un autre bien-aimé, ils vont encore là, là où on venait de manger son frère. Parce que quand on croit en Dieu, un échec n'est qu'une marche pour sauter encore davantage plus haut. C'est ça. Quand on croit en Dieu, les souffrances ne sont qu'un moyen pour aller encore plus loin. Parce que Dieu est tout puissant et cela ne changera pas. cela ne changera pas. C'est lui qui brise les portes de bronze. C'est ça la vérité, bien-aimé. Donc nous allons prier.